Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Pour cette édition Logosphère, nous allons à Becherel, plus précisément à la fête du livre qui se tenait les 16, 17 et 18 avril. Nous y avons rencontré la plasticienne et autrice Élise Ducange qui va nous parler de son ouvrage « Juste à moitié dévoré » publié aux éditions Goater. Puis nous retrouverons Laurent Houssin qui est dessinateur et illustrateur de bande dessinée et qui nous parlera de son travail et de son roman graphique Le potager rocambole, dans lequel il nous fait part de son apprentissage de l'art du jardinage au jardin rocambole. Vous écoutez Logosphère sur les ondes d'univers 99.9. Élise Ducange, bonjour.
Bonjour.
Élise Ducange, vous êtes artiste.
Moi, je me dis plasticienne, hein, plasticien, parce que plasticien, c'est donner de la forme à des choses, mais ça peut être aussi des mots, de la couleur, ça peut être des espaces, et ça peut être de la terre. Et donc, j'aime bien ce mot plasticien.
Plasticienne. Céramiste, notamment, entre autres?
Ben, j'ai fait pas mal de terre, notamment des petits objets. Et puis, aujourd'hui, j'ai du mal à la faire. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à dire que j'avais repris pied, les mains dans la terre. Mais aujourd'hui, en ayant traversé mon écrit et puis la scène avec la comédienne et metteur en scène Gaëlle Hérault, c'est compliqué pour moi de revenir dans cet espace et dans cette posture de fabriquer des petits objets polissés. Donc je suis revenue à la terre, mais par une installation que je viens de mettre justement pour la fête du livre.
Par ailleurs, vous êtes autrice.
Oui.
Pour un ouvrage qui s'intitule « Juste à moitié dévoré » qui a été publié aux éditions Goater. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet ouvrage? Comment est-il né?
Alors, les mots m'accompagnent depuis longtemps. Alors, j'avais déjà sorti un petit livre avec Laurent Houssin, qui est mon compagnon, qui est une histoire pour enfants aux éditions Carabas, il y a 16 ans de cela. Moi, j'écris toujours. Alors, même derrière mes céramiques, il y avait toujours des petits poèmes. Et la poésie m'accompagne depuis tout le temps. Et ce texte, c'est un long poème qui parle de l'inceste. Mais plus que de l'inceste, c'est plutôt de tout ce que cet inceste génère. Donc c'est un, plutôt, je le vois comme un dispositif plastique, cet écrit, où on rentre dans une petite machine à mots qui nous emmène dans la boucle, les boucles que font la vie une fois qu'on a perdu la moitié de soi après une dévoration.
Comment avez-vous développé ce travail d'écriture? Voilà.
Comment l'écriture m'accompagne? L'écriture, elle est quotidienne. Alors, déjà, j'ai un travail presque quotidien qui est celui de faire un autoportrait et puis faire un petit texte. Donc, c'est toujours là, les mots, l'écrit, c'est une matière comme une autre. C'est pour ça que je parle de plasticien, parce que je me sens pas du tout céramiste. Moi, la technique, elle m'intéresse uniquement pour pouvoir accéder à mes fins. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'aller partager mon sensible avec un autre de mes semblables, et que ce soit par les mots, par la terre, la combinaison des deux, tout s'articule. Et pour moi, ces choses sont que des moyens de donner forme à une idée, une sensibilité, une émotion.
On parlait de la terre, parce qu'il y a quelque chose de très corporel, pour le coup,
physique,
très
ouais.
Physique avec la terre. Est-ce que vous appréhendez ce travail de la même manière, avec les mots,
de façon physique? Oui, bah, souvent on me dit que mon écriture, elle est très singulière. Elle est peut-être aussi, elle est modelée un peu abrupte. Donc je pense que je ne peux pas être autre chose que moi-même. Et donc que j'utilise un pinceau, mes doigts ou bien les mots, je pense que les assemblages passent toujours par... Par ma corporalité, oui, bien sûr. Mais moi, je pense que les mots sont aussi des objets. C'est pas des choses éthérées, juste intellectuelles. C'est aussi. Moi, j'aime beaucoup la poésie pour ça, parce qu'il y a quelque chose de très immédiat qui nous parle à notre corps et à notre sensible qu'on retrouve aussi dans l'art brut, par exemple, ou l'art singulier, où il y a cette puissance d'élan. Voilà.
Alors, dans cet ouvrage, vous parlez d'une expérience traumatique. Comment vous l'avez abordée, justement, comment on écrit
sur ça. Comment on écrit sur ça? Alors déjà, moi je pense que faire le choix d'un chemin d'artiste, c'est faire le choix de travailler sur soi. Donc pour moi, c'est un vrai travail, j'allais dire, c'est mon petit travail de philosophie personnelle. Et plus j'avance et plus je me rends compte que je suis le plus pertinente au moment où je suis vraie et où je donne à voir ce qui est juste en moi. Et puis... je me suis beaucoup intéressée au sujet et j'ai lu notamment Dorothée Ducy, qui est anthropologue et qui a travaillé sur le berceau des dominations. Son livre s'intitule comme ça. Et ça m'avait beaucoup interpellée parce que on me renvoyait toujours mon expérience singulière et en la lisant, j'ai réalisé à quel point c'était quelque chose qui était construit toujours de la même façon et qui nous reliait et qui faisait aussi un lien très sombre, mais un lien dans notre société, donc quelque chose de très tordu, mais qui était fondateur en fait de notre société. Donc à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que mon histoire, c'était pas mon histoire, c'était une histoire. Et aujourd'hui, je travaille sur l'héritage, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que je me suis rendu compte qu'on choisissait pas ses héritages, on choisissait pas les choses qui nous mutilaient, nous laissaient sans voix et nous empêchaient de pouvoir être. Et on choisissait pas non plus d'être héritier de tous ceux qui avaient osé. Et on fait avec ces deux compositions-là, et parfois on se sent dans l'empêchement et parfois on se sent dans l'élan porté par tous ceux qui ont réussi à le faire. Et aujourd'hui, je me rends compte que toutes les libertés que je prends, moi, c'est des libertés aussi que je donne. Et on me le renvoie souvent. Et je prends ces libertés parce que d'autres me les ont données aussi. Et donc, je pense que la liberté, c'est quelque chose qui circule et qui se donne de l'un à l'autre par nos audaces.
Et le livre, pour le coup, aussi, est un vecteur de liberté.
Complètement, oui, c'est déjà une liberté osée et puis aussi le fait de l'avoir mis en corps hein, par ce travail de mise en scène de Gaëlle Hérault, c'est aussi reprendre la liberté de pouvoir oser dire ça au milieu d'un plateau. Et pour moi, c'est puissant. J'ai réalisé il y a très peu de temps qu'on pouvait arrêter d'être victime le jour où on était reconnu comme tel et aujourd'hui je me sens plus du tout victime.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette mise en scène, comment de la mise en scène de ce texte dont vous nous parlez, quelle est sa genèse justement?
Oui, donc j'avais écrit ce texte que j'avais au début fait comme un livre-objet que j'avais exposé lors d'une exposition où on n'était que des femmes à la Maison du Livre. Et donc je pense qu'ils attendaient que j'expose des petites céramiques et j'avais dit bah non, j'ai pas du tout envie d'exposer ça, je voulais exposer que de la peinture. Parce qu'au départ, moi je peignais à 20 ans, j'avais eu une formation plutôt de peintre. Et donc je voulais exposer ce texte, donc c'était le premier point de départ. Et puis après j'ai eu l'intuition que ce texte devait prendre corps. Et j'avais rencontré Gaëlle Hérault, dont j'avais déjà vu le travail, au Jardin Rocambole, lors d'un vernissage. Voilà, et on avait échangé. Et puis, je me disais, j'aimerais bien que ce soit avec elle. Et je n'osais pas la contacter, elle avait mon mail. Et puis, j'étais en résidence à Tours sur un autre travail qui est un concert dessiné. Et elle m'envoie un message en disant, j'ai lu un texte de Virginie Despentes et je pense à toi, je te l'envoie. Je me dis, bon, elle m'envoie ça, c'est un signe, je vais oser. Donc, je lui ai envoyé le texte et elle, quand elle l'a reçu, elle me dit que c'était évident qu'on allait le mettre en scène, mais elle pensait me mettre en scène avec mon texte. Et en fait, moi, je nous voyais à deux. Et ça s'est déroulé de façon très, très évidente, en fait, et très, très, très vraie, très auprès de moi, en fait. Et on a eu 3 semaines de résidence avec la Maison du Livre de Bécherel. J'ai eu une petite bourse aussi de création par Rennes Métropole, qui a été pour moi la confirmation qu'il y avait quelque chose à avancer dans le croisement de ces arts. Et puis, une dernière résidence à Pordic le mois dernier au Théâtre Robert.
Il y a aussi le fait de porter sur scène, où le texte prend une autre dimension.
Carrément. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup affiné. Alors, il n'a pas changé, mais il a beaucoup changé dans sa mise en forme, où l'évidence de ses deux voix s'est complètement affirmée, avec une partie qui est ponctuée, l'autre qui ne l'est pas du tout. En le traversant avec Gaël Hérault, et puis aussi plein de sens qu'elle voyait qui me sont apparus, parce que écrire de la poésie, des fois, on a l'impression que ça nous est donné, que c'est dans l'air et qu'on a juste à attraper les choses. Et donc, je les ai complètement redécouverts aussi en le mettant, en l'entendant, en entendant, elle, le son qu'elle y mettait, la musique qu'elle y mettait, parce que ouais, La grosse difficulté, c'est que moi, je l'ai écrit avec une musique dans ma tête. Et il fallait que je me défasse de cette musique-là pour en faire naître une nouvelle, une présente, une plus vivante, quoi.
Justement, emprunter l'écriture, comment dire, le mode d'écriture poétique était ce qui convenait le mieux pour parler de cette expérience, ou du moins enfin, cette expérience de... Voilà.
Ouais, de ce traumatisme. Oui, alors en fait, ça ne se veut pas du tout... je ne le voyais pas du tout comme quelque chose de cathartique ou bien quelque chose... souvent, on me posait la question si c'était un moyen de me libérer des choses. Non, je l'ai fait parce que j'en étais déjà libérée. Donc c'était plutôt... en fait, j'ai une grosse révolte, c'est... Le fait qu'il y ait prescription. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de crimes où il puisse y avoir une prescription au bout d'un temps donné. Et donc, je trouvais ça dingue que moi, le vivant de l'intérieur, la difficulté de faire une vie avec ce poison dans le corps et le fait qu'on puisse dire « Non, mais là, c'est bon, au bout de 10 ans, je pense qu'on peut arrêter là, quoi. » Et donc, le fait de parler non pas du point de départ, mais de tout ce que ça engendre, c'était aussi pouvoir partager ça et partager comment on pouvait sortir de ça, c'est-à-dire comment on pouvait reprendre la main sur sa vie. Et puis aussi, en réalisant que ça appartenait à la société et pas aux individus qui l'avaient traversé. Et ça, pour moi, c'était important de replacer ça dans une responsabilité collective. Et puis... Eh ben, en fait, par la poésie, pour moi, ça, c'est une façon de parler directement à notre part sensible et corporelle. Et comme la question, elle était sensible et corporelle, c'est-à-dire que se faire violer, ça se passe pas dans la tête, ça se passe dans le corps. Eh ben, ça me semblait difficile de faire quelque chose qui soit seulement un décortiquage intellectuel de la chose, je voulais pas non plus un truc. C'est un truc qui était vraiment qui sortait de l'intérieur de moi, quoi. C'était très très intérieur et très puissant, ouais. Et donc c'était vraiment dans cette part sensible, ouais.
Un mot juste sur les éditions.
Les éditions Goater, la rencontre avec Jean-Marie Goater, c'est un éditeur rennais qui est très engagé autour de plein de questions, des femmes, du genre, de plein de choses. Hein. Et donc, j'étais ravie que ce soit lui aussi qui le porte et qui m'a donné la possibilité de faire un petit objet un peu singulier avec un double rabat et en faire justement un objet qui soit aussi un peu plastique.
Merci, Élise Ducange, pour cet entretien donc autour de votre travail et plus précisément sur ce livre, juste à moitié dévoré, qui a été publié aux éditions Goater. Merci à vous.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici à Bécherel pour la fête du livre de Bécherel, où vous exposiez votre travail. Vous êtes, dessinateur en BD, illustrateur
Illustrateur, dessinateur de bande dessinée. En fait, pendant longtemps, je voulais faire de la bande dessinée, donc je voulais être dessinateur de BD. Mm-hmm. Et je me suis aperçu la vie, c'est aussi des opportunités. Mm-hmm. Et que, moi, mon corps de métier, c'est la créativité et le dessin. Mm-hmm. Donc, par exemple, ça m'est arrivé, à un moment dans ma vie, j'ai fait une Game Boy Color en pixel art. J'ai fait du dessin animé, alors que ce n'était pas du tout ce qui était prévu, quoi.
Alors, vous avez fait donc des albums tels que King Bling, Chiffonné, Tendre Enfance, Lulu et les Grosses Morues, qui est édité aux éditions Goater, et Le Potager Rocambole. Est-ce que vous pourriez nous parler plus précisément de cet album, Le Potager Rocambole, qui est un lieu où l'on expose justement l'art du jardin et pas simplement l'art du jardin. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet, de la genèse de ce projet ?
Alors, moi, je suis originaire du nord de la France, j'habitais à Roubaix, mm-hmm. arrivé en Bretagne il y a 6 ans, avec l'envie très forte de créer un jardin, donc un jardin potager. Dans les premiers mois où on est arrivé, j'ai eu l'occasion de visiter donc, les jardins rocamboles de Luc Bienvenu, qui sont des jardins remarquables qu'on peut visiter au sud qui sont à Cornu, au sud de Rennes. Donc un mélange de jardins potagers, ornementaux, d'installations paysagères et artistiques. Donc il expose tous les ans aussi des artistes. Donc son jardin est exposé il est ouvert de fin mai à octobre. Et Luc est un ancien maraîcher bio qui a sévi pendant 30 ans sur la région en Bretagne et qui aujourd'hui se consacre exclusivement au jardin. Mais en fait, il est aussi passé par la case formation. Donc on peut, au Jardin Rocambole, suivre une formation sur le jardinage. Et donc je me suis autorisé à me reformer, en fait, et puis aller apprendre auprès d'un jardinier expert et professionnel les rudiments du jardinage.
Les rudiments du jardinage et la rencontre entre un jardinier et un dessinateur en bande dessinée, un dessinateur plus généralement, ça crée un album.
Alors, moi, ma prise de notes pendant cette formation, c'était surtout des dessins. En fait, donc je faisais des illustrations qui... Et à un moment, je les ai montrés à Luc, puis je lui ai dit que, je pense qu'il y avait un sujet, il y avait matière à faire un sujet. Donc sans savoir à qui ça aurait pu intéresser comme éditeur. Hein. Et Luc, ça l'intéressait aussi, parce que c'est aussi un créatif. Hein. Et puis c'est comme ça que l'aventure a démarré. Donc on a conçu, coécrit ensemble l'histoire. Donc... lui, avec tout le savoir jardinesque, et moi, l'expertise plus bande dessinée.
Alors, qu'est-ce qu'on traverse à travers, justement, ce travail de dessin et cette rencontre avec Luc, le jardinier ?
Alors, la bande dessinée raconte la rencontre entre un apprenti jardinier avec un jardinier professionnel. Sur 4 chapitres, qui sont 4 saisons, en fait. Et c'est une année au jardin, en fait, avec les gestes élémentaires, la façon d'appréhender les choses, d'anticiper. Donc c'est aussi... ça parle beaucoup pour moi de l'état d'esprit du jardinier, en fait, et d'une espèce d'une philosophie du jardinier.
Justement, qu'on peut retrouver dans le travail de dessin, enfin, est-ce que les points communs entre ces deux métiers, est-ce que vous en avez trouvé notamment ?
Sans dévoiler la fin de notre récit, hein, moi, selon l'expression consacrée, il faut cultiver son jardin, je dirais que cette bande dessinée a été mon premier jardin, en fait. Vous voyez, c'est comme si... moi, je suis dessinateur de bande dessinée. Aujourd'hui, hein, le jardinage m'intéresse, donc je fais une bande dessinée sur le jardinage pour apprendre le jardinage.
Quelque chose qui permet aussi au lecteur de s'éveiller peut-être au jardin et plus généralement aussi à ce qu'on y développe, notamment au jardin rocambole, la beauté effectivement, mais par ailleurs aussi l'écologie.
Complètement. Je dirais que le potager rocambole, la bande dessinée, c'est une invitation à aller au jardin pour tout un chacun. Et puis, moi, je l'ai vécu comme un geste écologique aussi, pour moi, qui est important, qui est un geste de résistance. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par faire son jardin. Et je dirais aussi que faire mon jardin, ça me permet de rester optimiste. Et je pense que pour pouvoir faire les choses, il faut d'abord garder le moral. Et en fait, il faut y croire. Et donc ça, il y a tous les bienfaits que ça apporte concrètement, matériellement, mais aussi dans sa tête. Et il y a des dédicaces où j'ai rencontré des gens qui sont venus voir en me disant « Moi, j'étais en dépression et je me suis soigné par le jardin, par le jardinage. »
Vous définiriez ça comment, justement, le jardin? Et donc, par extension, le jardinage.
Pour moi, c'est un espace de liberté, c'est un espace de création, c'est un espace d'apprentissage où on est assujetti. Il y a un cadre qui est très fort, qui est celui de la nature et des saisons. Il y a tous les... Quand je dis l'apprentissage, c'est savoir où est-ce qu'on doit mettre ses carottes pour les faire pousser. Et si elles ne poussent pas bien là, en fait, peut-être que c'est parce que ce n'est pas le bon endroit, tout simplement, etc. etc. Mais dans un sens plus large, pour moi, tout ça, c'est comment... c'est des choses qu'on... C'est un lieu où d'apprentissage de la vie, quoi. Je veux dire, parce que toutes les qualités et toutes les ressources qui sont nécessaires pour moi pour aller au jardin, c'est celles que je dois déployer aujourd'hui dans ma vie pour faire mon métier et pour vivre avec les autres, en fait.
Est-ce que vous pourriez nous parler des choix aussi en tant que dessinateur que vous avez fait pour construire cette bande dessinée?
Alors, on voulait surtout pas faire un manuel de jardinage. On voulait pas faire quelque chose qui soit trop didactique, même si finalement ça l'est un peu. Ce qu'on voulait, c'était que la façon dont on allait raconter les choses soit aussi une transposition. Il y a aussi une créativité dans la façon de raconter. Donc, par exemple, l'analyse du sol, ça devient une exploration où les personnages rapetissent et en fait vont visiter une galerie de vers de terre. Mmh. Et dans cette galerie, on a des coupes qui sont des tableaux, comme des tableaux abstraits, qui nous expliquent en fait les sols, en fait, tout simplement. Et puis on s'y enfonce de plus en plus et on va découvrir. À un moment, on assiste à un défilé de l'abolition des pesticides, où on voit toutes les créatures du sol, de la plus grosse à la plus petite, la plus microscopique, je dirais. Donc voilà, il y a beaucoup de liberté par rapport à la réalité, en fait, mais pour mieux comprendre cette réalité. Donc c'était... Et puis moi, ce que j'aime dans le dessin et dans la BD, c'est aussi la transposition des choses. C'est-à-dire que faire comprendre une information en faisant ressentir des choses.
Cette bande dessinée a reçu le prix Tournesol, c'est ça, qui est un prix de l'écologie, on va dire. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette reconnaissance?
Alors, le prix Tournesol, c'est un prix qui existe depuis 26 ans, qui est remis dans le HOF de Angoulême. Et c'est un prix qui est remis par les écologistes, en fait, par le Parti des Écolos. Alors, il y a quelques années, j'avais eu un prix avec une autre bande dessinée qui s'appelle Tendre Enfance, qui était un prix d'humour. Mmh. Et qui est un prix remis par des auteurs à des auteurs qui font de la bande dessinée d'humour. Donc c'est le meilleur prix qu'on puisse avoir quand on fait de la bande dessinée d'humour. Mmh. Je dirais que le meilleur prix qu'on puisse avoir quand on fait une bande dessinée qui a une vocation écologique, c'est d'avoir le prix Tournesol. Mmh. Donc pour nous, c'est une reconnaissance et puis c'est une mise en lumière en fait de notre travail.
Mmh. Ce dessin du jardin peut aller jusqu'à des formes de paysagisme.
Bah moi je pense que oui, parce que le d'abord on doit faire un plan de son jardin, donc on doit faire un dessin de son jardin. Alors il y a des visions. Luc c'est un pragmatique, donc lui qui d'ailleurs on en parle de la bande dessinée, il parle de la poésie de la ligne droite. Et moi, les premiers plans que j'avais faits, c'est des jardins en mandala, mais qui sont pas, comment dire, qui sont pas pratiques dans l'entretien forcément. Mais en même temps, je travaille sur un nouveau sujet qui est sur l'agroécologie au Brésil. Et dernièrement, là, j'ai vu un exemple de jardin en mandala, mais qui est absolument fantastique en fait, et ça marche. Donc après, c'est une question de c'est des choix, et c'est des choix qui correspondent aussi au temps qu'on va pouvoir consacrer à son jardin. Si on a beaucoup de temps, ben, on peut peut-être s'autoriser à faire des choses plus fantaisistes, qui vont demander plus de temps dans l'entretien, alors que si on a peu de temps, ben, en fait, il faut être plus efficace.
Il y a une dimension esthétique aussi au jardin rocambole. J'imagine que pour un dessinateur, ça doit parler immédiatement.
Je pense que je suis d'abord tombé... sous le charme de l'œuvre de... parce que c'était une œuvre pour moi, des jardins de Luc Bienvenue, en fait, donc des jardins rocambole. Je pense que je vais pas dire que je rêvais... c'est un jardin qui nous fait rêver... enfin, moi, ça me faisait rêver d'avoir un jardin comme ça, en fait. Mais ce que j'ai compris en travaillant avec Luc et en faisant cette bande dessinée, c'est que chaque jardinier, il a son propre jardin qui a son image. Et en fait, c'est de celui-là qu'on doit rêver, et pas de celui des autres. En fait, il n'y a pas de compétition. Vous voyez, quand on dédicace, il y a des gens qui viennent me voir, je leur dis « vous jardinez ». Alors les gens sont parfois gênés parce qu'ils ont un jardin modeste. Moi, je dis « en fait, il n'y a pas de jardin modeste, il y a juste le jardin avec le temps, vous allez y consacrer, et votre jardin, il est fantastique, parce que c'est vous, parce qu'il vous ressemble ». En fait. Et effectivement, si moi j'étais à la retraite et je pouvais passer toutes mes journées dans mon jardin, et il serait plus grand, il serait plus beau, je pourrais faire plus de choses.
Mais il y aura moins de dessins.
Oui, c'est ça, en fait, exactement, oui, tout à fait.
Ouais. Un mot sur les éditions, est-ce que vous pourriez nous en parler?
Alors, je pense que ce qui a beaucoup intrigué notre éditeur aussi, c'était que moi je venais de Fluide Glacial, en fait. Et donc, j'avais pas de... Ce projet, il est important pour moi parce que c'est la première fois que je fais un projet de 170 pages et que je m'attaque à une écriture qui est différente, qui est celle du roman graphique. Avant, je faisais des histoires courtes, j'avais des pages, des illustrations beaucoup, et puis des histoires en une, deux pages, pas plus, quoi. Et d'un seul coup, je vais voir un éditeur en disant « voilà, j'ai un projet de 170 pages, même pas peur ». Et avec quelqu'un qui ne savait pas plus que moi faire de la bande dessinée. Et puis, ce qui est génial, c'est que il y a eu une rencontre aussi avec cet éditeur, donc qui s'appelle Alain David, hein, de l'édition Futuropolis, et qui était aussi partant pour nous accompagner dans cette aventure, en fait. Et puis, il a eu raison.
Et est-ce que vous voyez justement une appétence du public aussi pour ces thèmes? Ces thèmes, c'est entre guillemets, mais pour l'écologie en général, d'une certaine manière, cette dimension sensible à la nature, aux plantes et à l'environnement qui nous entoure, et d'une certaine manière aussi à travers la BD, c'est redécouvrir cette dimension-là, en fait.
En tout cas, pour moi, c'est exactement ça. Je veux dire, faire mon jardin et faire cette bande dessinée, c'est aussi se reconnecter avec la nature. Et puis, je pense que moi, je vois plein de gens qui font leur jardin, chacun à leur échelle. Peut-être encore plus avec la période qu'on vit par rapport au réchauffement climatique, je veux dire, d'aller se reconnecter avec le vrai, avec son vrai.
Merci Laurent Houssain donc, pour cet entretien autour de cet album, ce roman graphique, pardon, Le Potanger de Rocambole, édité chez Futuropolis. Merci à vous.
Merci.